Croyez-vous aux ovnis, ces objets volants non identifiés? Êtes-vous fan de ces émissions qui nous les présentent avec des petits bonhommes verts, des extraterrestres? J'adore ce sujet et tout autant celui qui vient de nous proposer un livre qui fait l'histoire finalement de ces incidents énigmatiques OVNI au Québec. C'est le nouveau livre de Christian Page. Bonjour Christian.
Bonjour Isabelle.
Journaliste spécialisée en paranormal qui s'est beaucoup intéressée à la chose et surtout parce que tu as déjà été toi-même ufologue dans une autre vie, j'allais quasiment dire, n'est-ce pas?
Exact. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que je disais à la recherchiste, lorsque l'on a, parce que ce livre-là est un regard critique hein, sur le phénomène des ovnis.
Mais entendons-nous, ben oui, on le connaît. Hein,
ben oui. Mais entendons-nous. Hein, dès le départ, je mets la table, je le dis, il n'y a pas de débat sur l'existence des ovnis. Les gens voient des choses dans le ciel qu'ils n'expliquent pas, et pour à peu près 5 à 10% de ces observations, même une investigation n'arrivera pas à trouver une explication rationnelle. Donc, le phénomène des ovnis, il n'est pas remis en question. La question maintenant est de savoir, est-ce que ces ovnis, ces objets volants non identifiés, d'ailleurs aujourd'hui on préfère l'expression PAN hein, pour phénomène aérien non identifié, mm-hmm. Donc ça ne nous oblige pas à accepter qu'il y a un objet derrière le phénomène. Donc ces phénomènes mystérieux dans le ciel, il n'y a pas de débat, ils existent, ils sont là. Maintenant la question est de savoir, est-ce que ces objets sont réellement des vaisseaux spatiaux extraterrestres? Donc là on passe du constat du phénomène à une interprétation. Donc, moi, je suis parti, j'ai dit, je vais regarder un peu ce sujet-là. Et aujourd'hui, parce que faut pas se le cacher, Isabelle, ce phénomène, il est apparu de manière contemporaine. Bien sûr, on pourrait reculer, là, l'Arche d'Alliance, pas l'Arche d'Alliance, mais l'Arche de Noé aurait été transportée par un vaisseau spatial. La manne des Hébreux dans le désert aurait été un vaisseau spatial. Bon, on peut reculer, là, jusque dans l'Antiquité, dans des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais la réalité est que sur le plan, disons, plus moderne, ce phénomène apparaît au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et le Québec a fait ne pas échapper à cette vague d'observations d'OVNI. Dans le livre, je recense plus de 200 observations d'OVNI qui se sont produites au Québec. Donc, on a commencé à voir ces phénomènes mystérieux dans le ciel. On s'est intéressé à ces sujets-là. Même les services militaires se sont intéressés à ça. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce que ce sont les Russes qui sont en train de nous envahir? Et peu à peu, je te dirais que ma vision à moi, c'est que ce phénomène au début qui était alimenté par une saine curiosité a fait place à une espèce de croyance. Mm-hmm. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus la question de qu'est-ce que sont les ovnis, c'est les ovnis, c'est des extraterrestres, puis on va vous le prouver. Mm-hmm. C'est devenu ça un peu le dialogue des amateurs d'ovnis.
Il parle d'un freak show carrément, là.
Absolument. Et quand on parle de ces sujets-là, quand on jette un regard critique là-dessus, les gens qui font ce que moi j'ai fait, on est généralement taxé par les ufologues, hein. Ce sont ces gens qui se définissent comme les experts des ovnis. Ces gens-là vont nous taxer en disant « ce sont des sceptiques, ils connaissent pas le sujet ». Mais moi, on pourra pas me servir cette médecine-là.
Non.
Ça fait 44 ans que je suis dans le domaine du paranormal et de l'étrange, et j'ai passé plus de 20 ans de ces 40 ans dans ce milieu associatif des ovnis. Donc, j'ai été membre de plein d'organisations, j'en ai dirigé moi-même, hein, et donc le sujet, je le connais bien. Donc, je suis capable de prendre un recul par rapport à tout ça et de jeter un regard là-dessus.
Oui.
Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre, hein, de dire, OK, attention, là, on a un sujet qui est fort intéressant,
Et justement, ta passion, t'allais dire qu'il me passionne, mais j'allais te demander d'où vient cette passion que tu as eue très tôt pour les ovnis, là, pour tous ces phénomènes aériens non identifiés. Là.
En fait, c'est curieux parce que en 1976, j'ai vécu une expérience personnelle qui n'a rien à voir avec les ovnis. Mais ça m'a éveillé à cet univers de l'étrange et du mystérieux que je ne connaissais pas. Bien sûr, comme n'importe quel adolescent, on avait vu des séries à la télé, hein, Les Envahisseurs ou Cinéma Rencontre du Troisième Type ou des trucs comme ça. Mais le sujet ne m'intéressait pas particulièrement. Pour moi, ce n'était que du divertissement. Et en 1976, donc, c'est cette petite expérience que j'aurais tendance davantage à associer aux fantômes qu'aux ovnis. Mm-hmm. Mais néanmoins, ça m'a ouvert, ça a déclenché cet intérêt pour le paranormal. Et écoute, aujourd'hui, 44 ans plus tard, je t'en parle avec la même fougue, la même passion qu'à l'époque. Le sujet ne m'a jamais déçu. mais la communauté énormément.
Ouais.
Donc, peu à peu, avec le temps, donc au sein de ces organisations, j'ai découvert que ces gens ne cherchent plus la vérité, quelle est la nature de ces objets. Ce qu'ils cherchent, c'est de nous vendre des extraterrestres.
Mais raconte ton histoire par règle, parce que là, tu as piqué notre curiosité. Là, tu dis c'est plus un fantôme qu'un ovni, mais là, on est curieux. Là. Moi, je connais l'histoire parce qu'on a fait ensemble Enquêteur du paranormal, mais ça vaut la peine que tu le dises aux gens qui nous écoutent.
Donc, c'était en 1976, c'était le soir du 13 juillet 1976. Là, évidemment, les gens vont dire, mais ce type est complètement déjanté. Donc, c'était le 13 juillet 1976, je faisais de l'autostop, j'étais à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, c'est un petit village près de la frontière américaine, et je rentrais chez moi en faisant de l'autostop, j'habitais à l'époque à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vers à peu près 22 heures, une voiture s'amène, je suis un peu à la sortie du village, donc la route est mal éclairée, il y a des réverbères, mais toutes les 50-60 mètres, donc la route est mal éclairée, et là, donc la voiture s'approche, et au moment où elle arrive à ma hauteur, probablement, je suppose que le chauffeur m'a vu à ce moment-là, donc il donne un coup de roue pour éviter, peut-être est-ce que j'étais trop sur la chaussée, je l'ignore, peut-être est-ce qu'il était surpris. Donc il donne un coup de volant, la voiture, faut se rappeler, on est dans les années 70, c'est ce qu'on appelait des voitures à propulsion ou à traction arrière, donc le véhicule se cabre un peu, les roues arrière tombent dans le gravier là, le long de la route, parce que pour situer un peu les auditeurs, dans cette folie, pour situer les auditeurs...
Mais non, écoute, ça t'est arrivé?
Voilà, on est dans une région très agricole, hein, donc on a la route rurale, on a de profonds fossés de chaque côté, et ensuite ce sont des terres agricoles. Mm-hmm. Donc au moment où la voiture arrive, donne le coup de volant, les roues arrière se retrouvent dans le gravier, et je sais à ce moment-là que la voiture va me frapper, là. Donc ça se passe devant moi. Là. Et comme la voiture arrive à ma hauteur, là, je sais, là, Isabelle, il en a fumé du bon, lui, là. J'ai senti que j'étais soulevé du sol. Mais j'ai pas l'impression d'avoir sauté. J'ai l'impression d'avoir été littéralement soulevé du sol. Comme si je m'étais retrouvé dans un état d'apesanteur.
Mm-hmm.
Et j'ai vu la voiture passer sous mes pieds. En fait, c'est le coffre arrière que j'ai vu de la voiture passer sous mes pieds. Et je me rappelle, aujourd'hui, je te le raconte, écoute, ça fait 45 ans de ça. Quand la voiture est passée, je me rappelle que je bougeais mes pieds comme si je marchais dans l'air. Et je me disait, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, la voiture passe, le véhicule retrouve son aplomb sur la chaussée et il s'éloigne. La voiture ne s'est pas arrêtée. Au moment où tout ça se passe, moi, évidemment, je ne suis pas resté comme ça dans l'air pendant 5 minutes. Là. Dès que la voiture est passée, j'ai basculé vers l'avant. Je ne suis pas tombé dans le fossé. J'ai eu l'impression d'avoir été déposé dans le fossé.
C'est fou pareil, hein?
Mais c'est fou. Et le temps de me relever, écoute, je suis ébranlé, là. Est-ce que j'ai pas d'explication, les dernières secondes m'ont littéralement bouleversé. Et au moment où je suis en train de réfléchir à ce qui vient de se passer, je sens des mains qui m'empoignent. Je le raconte puis je trouve ça ridicule. Je sens des mains qui m'empoignent, on me soulève du sol et on m'amène dans le champ qui jouxte la route. Je flotte littéralement dans l'air. Je suis à peu près, je dirais, à peut-être à 45 centimètres, un mètre maximum du sol. Je suis face contre terre, donc je vois le sol sous moi. Je sens des mains qui m'agrippent autour des bras, autour des épaules, en fait, et d'autres mains qui me saisissent par les chevilles. Et là, on m'amène, je suis comme complètement paralysé par ça. On m'amène, je n'ai pas l'impression de flotter dans l'air comme sur un tapis volant. Là, j'espère que la direction de Cogeco n'est pas à l'écoute parce que je vais...
Non, mais je dis, t'as pas d'explication. Je disais, toi, tu sais, on peut dire aussi, bon, il s'est cogné sa tête, il était complètement en rêve, mais je dis, t'as pas d'explication. Et tu te souviens de cette série-là?
Oui, oui. Et là, au moment où on me déplace, hein, je flotte pas dans l'air comme sur un tapis volant. Il y a comme un mouvement, une oscillation de haut en bas, comme si quelqu'un me transportait, comme si on marchait.
On va aller à la porte.
Et là, j'entends des voix. Tu veux qu'on a...
Finis tes voix. Je voulais juste te signaler qu'il fallait qu'on aille à la porte quand même.
Donc, j'entends des voix. Une première voix, donc celle qui me tient par les chevilles, c'est du moins ce que j'ai l'impression. Elle dit, on va le tuer. Et une autre voix, qui n'est pas celle qui me tient par les épaules, mais comme s'il y avait un éclaireur devant, qui lui répète « Non, on va seulement lui faire peur. » Donc tout ça a duré peut-être...
Voyons donc!
Et tout ça a duré peut-être une minute, et puis là, 30 secondes, une minute, et puis on m'a déposé sur le sol, j'ai senti une pression entre mes épaules, et tout s'est arrêté. Quand je me suis retourné, j'étais assis dans mon champ de maïs, je voyais la route qui était à 50 mètres de moi, il n'y avait personne.
Ouais.
Vraiment personne. c'est troublant.
Et t'as toujours pas d'explication là-dessus.
Pas d'explication. Et je te dirais, Isabelle, que bien souvent, c'est la première chose à laquelle c'est le souvenir de ces événements, parce qu'on raconte toujours le souvenir d'un événement et non pas l'événement lui-même.
Ouais.
Le souvenir de l'événement, c'est encore une des premières choses auxquelles je pense le matin en me levant et l'une des dernières à laquelle je pense en me couchant. C'est vraiment une expérience qui m'a profondément troublé et qui m'a amené à m'ouvrir sur cet univers du paranormal. Donc là aussi, quand les gens me disent « Oh, il est sceptique, mais s'il avait vécu du paranormal, il penserait autrement. » Non. Justement, mon expérience empirique ne doit pas nous faire perdre le bon sens et le sens critique.
Exactement. Mais c'est fascinant. D'où ta fascination. Oui. Je trouvais que c'était intéressant de t'entendre raconter ça parce que, je veux dire, ça explique beaucoup de choses aussi. Ça explique pas ce qui a pu se passer là, mais ça explique aussi que tout le monde peut avoir une perception d'une situation puis qu'on n'en a pas d'explication. Tout ne s'explique pas forcément. On va aller à la pause. Mon Dieu, que le temps passe avec toi. C'est fascinant comme ça passe vite. On revient.
Merci.
Tout de suite après, écoutez cette série-là. Moi, j'étais fan quand j'étais petite. Là, c'était et ça se passe toujours sur une route de campagne.
Les envahisseurs. Des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers.
Leur univers! On va à la pause!
Tous les jours, Isabelle refait votre monde. Tous les jours, vous écoutez Isabelle au 98.5 Montréal.
Christian Page est journaliste spécialisé en paranormal. Il vient de publier « OVNI au Québec » et sincèrement, ça vaut la peine parce que de le lire, de se le procurer, parce que vous allez avoir là-dedans toute la nomenclature des expériences, de ces phénomènes aériens non identifiés, comme on doit plus justement les appeler. Christian, il y a bien sûr tous ces classiques sur lesquels tu reviens. Il nous reste peu de temps, là, mais je pense qu'on peut parler de l'affaire Malbeuf comme étant, probablement, tu le dis dans ton livre, en tête de liste, là, parce que c'est ainsi que les ufologues l'ont surnommé. Un mot sur l'affaire Malbeuf.
L'affaire Malbeuf, tu vois, quand on parle de phénomènes extrêmes, les rencontres du troisième type, hein, célèbre par le film de Spielberg, c'est l'observation d'un ovni, mais également de ses occupants. Et là, dans l'affaire Malbeuf, ça se passe, on est en 1977, janvier 77, une dame qui vit donc au rez-de-chaussée d'un édifice à logement. On est à peu près à 3h du matin, elle regarde par la fenêtre et là, elle voit un objet qui arrive et qui semble se poser sur le toit de la maison d'en face. Alors, pendant un moment, elle voit, à cause de l'angle, elle ne voit pas l'objet, mais elle voit des lumières qui clignotent au-dessus du toit. Elle se dit, l'objet doit être posé. Alors qu'elle regarde, elle voit apparaître deux personnages qui marchent jusque sur le bord du toit, qui regardent dans la rue, qui semblent discuter entre eux pendant un moment, et puis ils disparaissent à nouveau, et là, elle voit l'engin qui s'élève dans le ciel pour s'éloigner. Elle est tellement choquée par l'événement qu'elle n'en parle pas tout de suite. Le lendemain, son fils vient lui rendre visite. Elle lui parle de l'événement, il va grimper sur le toit de la maison d'en face. Et pour y être allé, je dois te dire, Isabelle, que c'est assez difficile de monter sur le toit. Il fallait passer par le bâtiment voisin, sauter sur une remise. Et quand on arrive sur le toit, il y a un rond de 3 ou 4 mètres de diamètre où la glace, je te rappelle, on est en janvier 1977,
ouais,
où la neige et la glace ont fondu avant de regeler à nouveau. Donc on voit distinctement ce rond et crois-le ou non, on voit des espèces d'empreintes qui partent du centre du cercle et qui vont jusque sur le bord du toit. Était-ce l'empreinte de ces mystérieux visiteurs vus par Madame Malbeuf? Il n'y a pas vraiment une enquête très rigoureuse qui a été menée, mais cette affaire-là a fait l'objet de nombreux articles dans la presse,
ouais,
et c'est devenu un classique. Et tu comprends pourquoi? C'est une histoire extraordinaire.
Écoute,
tous les éléments sont là.
Exact, Christian, c'est fabuleux. On aura l'occasion de se reparler le 7 novembre prochain, parce que ça va faire 30 ans depuis l'histoire de l'OVNI de la place Bonaventure. Puis ça mérite qu'on en discute juste
absolument
de celui-là.
Absolument.
Merci beaucoup, Christian Page.
Bonne journée à toi.
Incroyable histoire! On n'a pas le temps de s'en jaser. On reviendra là-dessus, sur votre croyance par rapport aux extraterrestres. En attendant, bonne journée tout le monde et à demain.